inattendu et inévitable. En même temps. En même temps, presque en même temps. Alors, qu'est-ce qui se passe après le départ de Teresa? Thomas, comme on dit en tchèque, reste seul à Genève. Un jour d'été, il fait beau, s'assied à la terrasse d'un café. Il est libre, parce que c'était quand même un sale caractère, c'est pas? Et il est léger. L'insoutenable légèreté de l'être. Il se sent léger. Et il ne le supporte pas plus de 10 minutes. Cette légèreté lui est insupportable. Plus de 10 minutes. Et c'est dit en trois lignes dans le livre. Presque on peut, que Kundera n'a pas voulu insister sur les raisons du paragraphe très rapidement. Et à son tour, il rentre. Alors, c'est là on retombe, retrouvons Tchekhov, qui disait c'est les actions qui doivent définir les personnages et pas le contraire. C'est les actions définissent les personnages, et ce n'est pas la psychologie des personnages qui entraîne une action.
Alors, c'est américain, non?
Donc on peut, oui. Alors, qu'est-ce que ça nous dit, ce retour qui est inattendu et inévitable. Pourquoi? Parce qu'il nous dit d'abord que Thomas aimait sa femme plus qu'il ne pensait. Qu'il aimait son pays plus qu'il ne pensait. Et surtout, pour le mot dire, qu'il aimait l'obscurité, la douleur, la souffrance et la mort plus qu'il ne pensait. Il y a tout ça dans cette action-là. Tu vois, quand c'est ça qui permet, qui m'a fait me dire, voilà, j'ai au moins une certitude, j'ai un pilier central. Je sais pourquoi ça s'appelle comme ça, je sais où je vais et je sais d'où je viens. J'ai ça comme axe qui est très très intéressant.
Et tu construis à partir de là.
À partir de là, ce que tu construis. Alors, pour le Cyrano de Bergerac, par exemple, tu as une affaire à une œuvre théâtrale du 19e siècle où tu as quatre actes avec quatre décors qu'il faut chaque fois construire. C'est-à-dire il faut le rideau se ferme, il y a au moins 10 minutes ou un quart d'heure entre chaque acte pour mettre en place le décor suivant. On rouvre, il y a cinq actes, pardon, donc quatre changements. Donc il faut, c'est une règle du théâtre de l'époque qui n'existe plus aujourd'hui. Nous avons dans le support, il n'y a plus de décor au théâtre. Le théâtre est devenu, comme le disait Peter Brook, un espace vide où tout peut se passer. Mais là, tous les personnages doivent se rencontrer dans ce décor-là. Prenons le deuxième acte de Cyrano, se passe dans une rôtisserie, pâtisserie. Dans cette rôtisserie-pâtisserie, Roxane a donné rendez-vous à Cyrano. Elle a quelque chose à lui dire. Il espère que c'est une déclaration de tendresse, sinon d'amour. Il est très épris d'elle, nous le savons. La scène commence par Ragno, le pâtissier, qui nourrit les petits poètes gratuitement. Ensuite arrivent tout à coup les cadets de Gascogne, les soldats qui sont du même régiment que Cyrano, qui, comme par hasard, arrivent là pour se désaltérer et manger. Cyrano se lève et dit « Ce sont les cadets de Gascogne, la fameuse tirade. » Et non seulement ça, mais arrive De Guiche, qui est le colonel propriétaire du régiment, qui vient inspecter ses troupes dans une pâtisserie. C'est un truc étrange. Quand il réfléchit, pas trop plus, etc. Alors, Rostand était obligé de faire ça. Et un de nos premiers, on va se faire la scène en deux, et on va inventer un décor qui ne peut pas dans la pièce, qui est tout simplement le décor de la caserne. La deuxième partie de la scène qui va se passer, où il serait normal que M. De Guiche vienne et que Cyrano lui présente les soldats. Mais à ce moment-là, intervient une autre question. C'est que le rendez-vous avec Roxane a été très décevant et douloureux. Elle lui a dit qu'elle aimait un autre homme et même lui a demandé de protéger cet autre homme qui s'appelle Christian et qui va rentrer dans le même régiment. Donc, Cyrano est totalement effondré et déprimé. Et dans la pièce, à ce moment-là, rentre les cadets. Et il se lève, comme si de rien n'était, voici les cadets de Gascogne, et se lance dans cette grande tirade. On s'est dit avec Rapelot, c'est bizarre, que ça va très difficile de faire passer ça dans un film, que l'homme aussi abattu puisse trouver tout à coup tant de fanfaronnade en lui pour. Alors, on va faire ça à la caserne. On va retarder le et puis je lui ai dit, on pourrait même imaginer que c'est le capitaine Carbon qui dit ce texte. Nous savons qu'il a été écrit par Corrado parce que c'est le poète de l'événement. Donc il précède Carbon, ce serait normal que ce soit le capitaine qui présente ses hommes. Et Cyrano est abattu et dans un coin, c'est comme ça dans le film. Et il écoute ça, et Carbon fait des fautes en récitant le poème. Alors, Cyrano voit son poème massacré, et finalement se lève et le dit lui-même. Alors c'est comme ça dans le film, c'est une adaptation. Quand nous avons fini le scénario, nous l'avons fait lire à un spécialiste d'Edmond Rostand qui sait tout sur Edmond Rostand. Il y a toujours des spécialistes qui savent tout sur quelque chose, mais rien sur le reste. Et il lit le scénario, il nous dit, mais où avez-vous trouvé cette idée de faire? Et je lui dis, voilà, on a eu l'idée en travaillant, ce que je viens de vous dire. Mais il me dit, est-ce que vous savez que Rostand l'avait écrit comme ça? Quoi? Oui, dans les manuscrits de Rostand, la tirade est à Carbon. C'est le capitaine qui dit ça. Alors, c'est incroyable, mais comment ça se fait? Je lui dis que dans toutes les éditions de Cyrano, l'édition originale, ce texte soit attribué à Cyrano qui dit ça. C'est parce que au cours des répétitions de la pièce, Coquelin, qui était l'acteur qui jouait Cyrano, et qui était une très grande vedette de l'époque, alors que Rostand était un, a dit, ça c'est trop bon, je le prends pour moi. Et littéralement, voler la tirade à l'acteur qui jouait Carbon, et c'est pour ça qu'elle est attribuée à Cyrano. Alors tu vois, c'était magnifique, on retrouvait des auteurs vivants, retrouvaient le chemin de l'auteur mort. Ça, il n'y a rien de plus émouvant que ça dans une adaptation. Cela dit, pour continuer sur l'exemple de Cyrano, si vous voulez, parce que c'est un des films sur lequel le travail d'adaptation a été le plus complexe et le plus dur. Vous n'allez peut-être pas croire ce que je vous raconte, mais je vous jure d'avance que c'est la vérité. La quatrième acte de Cyrano se passe au cours du siège d'Arras, où l'armée française est encerclée par les troupes espagnoles et crève de faim, n'ont rien à manger. Ce qui n'empêche pas Cyrano, tous les matins, de traverser les lignes espagnoles pour aller poster une lettre à Roxane, soi-disant écrite par Christian. En réalité, c'est lui qui l'a écrite. Comment dans un film faire admettre qu'un armée qui crève de faim et qu'un des soldats traverse allègrement tous les matins? C'est impossible, c'est maintenant réaliste, on ne peut pas. Ça c'est un effet de théâtre, ça se passe dans les coulisses, on n'y pense pas, mais ça, c'est pas possible. Et plus encore, plus tard, il y a Roxane elle-même qui arrive avec Ragnaud dans un carrosse chargé de victuailles. Comment ont-ils traversé les troupes espagnoles? Roxane dit en souriant aux officiers. C'est un peu léger, aucun spectateur de cinéma ne peut accepter ça. Alors on s'est mis au travail là-dessus, sur comment sortir de cette situation, on était obligé de garder le... Et finalement, nous avons... Quelqu'un nous a dit, un documentaliste, que... Bon, il y avait d'autres solutions, mais je vous les épargne, puisqu'on ne sont pas dans le film. Nous a dit que le blé au XVIIe siècle était beaucoup plus haut qu'aujourd'hui. C'était un blé aussi haut qu'un homme, et qu'aujourd'hui il est beaucoup plus bas. On s'est dit, tiens, s'il y avait un champ de blé assez haut, il pourrait en effet se glisser dans le champ de blé et passer des lignes. Alors, nous sommes allés au Muséum d'Histoire Naturelle à Paris, demander, vous aurez été reçu par un directeur, est-ce qu'ils avaient des semences du XVIIe siècle. Mais très naturellement, Ah bon, vous en avez en quantité. Ah oui, nous avons une bonne quantité. Pourquoi? Alors, on m'explique timidement que ce serait pour ensemencer un champ au mois d'octobre pour que la boisson suivante, le blé. Il nous a écouté, il a très très bien compris. Il nous a dit, je veux bien vous prêter des semences, mais à une condition, c'est que vous me les rendiez. Gratuitement, il a fait ça. Alors, on a signé des garanties et tout ça. Et on est parti avec 10 gros sacs de semences. On est parti en Hongrie. Et là, il a fallu refaire un plan cadastral, détruire des murs en terre sèche, un avant, hein, Je raconte ça parce que c'est ça le travail tout simple pour un problème de scénario. Nous sommes là dans l'écriture du scénario. C'est comment il va traverser les îles. Alors, on a fait un grand champ, on a ensemencé en octobre, on l'a fait ensemencer par les paysans, et puis on a attendu patiemment de voir si le blé du XVIIe siècle allait germer. Il a magnifiquement germé au mois de mars, et puis au mois de juin, juillet, puis splendide, mais très très haut. Non seulement il a tourné le plan de Cyrano qui va poster la lettre, qui d'ailleurs a fait l'affiche du film, si vous vous en souvenez, mais en plus il a tourné toute la scène de la bataille. Et nous avons, après que ça a été fini, fauché et rendu au muséum deux fois plus de graines que nous avions. Et ça, c'était tout le monde était très content. À quoi même de ces jours, c'est parce qu'il faut penser à ces choses-là. C'est la nécessité. J'avais pensé à une autre idée que je peux vous raconter. Ça vous donne une idée de ce qui peut se passer dans la tête d'un scénariste quand il essaie de donner de la vraisemblance en même temps de l'intérêt, voire de la beauté à ce qu'il écrit. Il existe un graveur français qui s'appelle Jacques Callot, du XVIIe siècle, de l'époque à peu près où vivait le vrai Cyrano de Bergerac. Callot a composé un album des misères de la guerre. Dans ces misères de la guerre, il y a ce qu'on appelle l'arbre pendu, c'est une gravure qui est sûrement vu reproduite. C'est un gros arbre, comme ça, avec d'énormes branches, sur laquelle sont pendus.
La guerre des 30 ans.
Oui, mais la guerre des 30 ans, sont pendus un certain nombre de corps. Alors, j'avais eu cette idée. Reproduisons un plan, il y a un arbre énorme, des branches et des pendus. Le plan fixe. On entend un bruit de galop, une patrouille espagnole arrive, tac, 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 fait le tour de l'arbre, inspecte partout, donne des coups de lance dans les buissons et s'en va. On reste. Et un corps tombe de l'arbre. C'est Cyrano qui s'en va en courant dans la direction d'où la patrouille est venue. C'était une possibilité. Ça coûtait trop cher. Ça coûtait plus cher que dans ce morceau de champ. Parce qu'il fallait construire l'arbre. Et tout ça pour un plan de 30 secondes. Et en plus, il ne pouvait pas l'utiliser pour la scène de la bataille. J'ai regretté parce que c'était une belle image. C'était une image d'époque, il y avait un rapport de la guerre de 30 ans, Cyrano, tout ça. Ça fait partie du domaine des oubliettes. C'est une idée tombée dans le. Alors, donc, le problème est le même. Il faut arriver à faire un film. Il faut arriver à ce qu'on oublie la pièce, il faut oublier les décors, il faut. Et la grosse difficulté dans Cyrano était que nous voulions absolument, et d'ailleurs, il était. Pas question de faire autrement, garder les vers. Donc il s'agit d'un film d'un Alexandre.
Mais qu'est-ce qu'il fait au niveau du dialogue?
Oui, alors d'abord on a coupé à peu près une heure. La pièce dure 3h30 et le film ne durait que 2h30, je crois. Donc, un peu plus d'une heure. En grattant ici ou là, en allégeant considérablement la séquence des voyages dans la Lune que tous les acteurs jouant Cyrano vont arriver avec terreur. Le tunnel qui arrive. C'est terrible, parce que ça dure 20 minutes. Et c'est de la plaie. Il y a l'autre qui écoute, de Guiche qui écoute, qui n'était pas l'auteur quand tu lui parles. Alors, et puis j'ai carrément, on a interverti des scènes, c'est un travail à l'intérieur de l'œuvre, mais j'ai dû réécrire à peu près 150 alexandrins classique à la manière de Rostand sans que les Rostandiens s'en aperçoivent. Par exemple, je vous donne un des premiers vers de la pièce, il se passe dans un théâtre et il y a une bande de ruffians, de voleurs, dont le chef dit à un d'entre eux, la dentelle surtout au canon, coupez-la. La dentelle au canon, coupez-la. Qui sait aujourd'hui que les canons étaient les petits bouts de dentelle qui pendaient au bas des justaucorps. Plus personne ne le sait. On voit des canons avec de la dentelle, c'est un verre complètement absurde. Alors il faut simplement supprimer les canons. La dentelle, surtout, les enfants, coupez-la. Il faut garder trois pieds, tu vois. Et personne ne se rend compte, en fait. Mes enfants, ou je ne sais pas, Elascar, je ne sais plus ce que j'avais dit. Garder trois pieds pour que le verre soit le même, mais. Il y a à un moment donné, Cyrano se bat et rapporte tout un tas de chapeaux des adversaires qu'il a abattus, et il dit ce sont des dépouilles opimes. Qui ici peut me dire ce que sont des dépouilles opimes? O-2-P-I-M-E. crois, tu le sais peut-être, quoi, non ? Les dépouilles opimes étaient les dépouilles que les empereurs romains présentaient au cours de leur triomphe, qui étaient les capturés sur la nuit et qu'on faisait défiler dans les rues de Rome. C'est un mot latin, c'est... plus personne ne connaît ce mot, qui est... Voilà, Rostand écrit souvent d'une manière précieuse, recherchée. Alors ça aussi, c'est plus ce que j'ai dit, mais il a fallu le remplacer. Mais nous n'avons pas eu de protestation. Et même notre texte a été retrouvé à la scène après.
Même les Romains
n'ont pas. Même les Romains n'ont pas protesté, ça veut dire. Et bon, j'arrête sur Cyrano, mais on pourrait vous en raconter encore.
Ça dit immédiatement que tout scénario en fait, avance en répondant à des questions, et puis et ces questions elles-mêmes en font des nouvelles.
J'ai dit ça, moi, mais. Alors, qu'est-ce que j'ai dit ?
Expliquer comment tu construisais au fait une action.
C'est-à-dire, oui, la question est toujours qu'est-ce qui va se passer ? Comment sortir ? Comment résoudre le conflit ? Comment faire porter la lettre ? C'est ça la question. Oui. Et une fois qu'on a répondu à cette question, la scène suivante est obligatoirement une autre question. Si elle n'est pas une question, elle n'est pas une bonne scène. Il faut toujours qu'il y ait à la fois une question de dramaturgie pure entre les personnages, qui va sortir vainqueur, qui va convaincre l'autre. Est-ce que l'homme va séduire la femme? Est-ce que la femme va séduire l'homme? Est-ce que dans une bagarre, qui va gagner? Etc. Problème qui est répondu d'avance avec le père américain, qui sait comment. Et il faut savoir ça, c'est que les westerns, dans les duels dans les westerns, aux pistolets dans les westerns américains, sont toujours, toujours construits sur le même modèle. J'ai travaillé une fois avec un vieux monteur à Hollywood, il m'a expliqué ça, c'est merveilleux. Il m'a dit, voilà, il a pris plusieurs exemples. Il y a d'abord un plan d'ensemble, où ils s'avancent l'un vers l'autre, les bras comme ça, les deux qui vont s'affronter. Tu peux avoir des plans de coupe sur la personne qui regarde, sur les complices qui sont inquiets, mais il y a un plan d'ensemble. Ensuite, ça se passe. Et là, il y a un plan sur l'un et un plan sur l'autre. Mais ils ne font rien. Ils se regardent. Ils s'attendent. Ensuite, il y a un plan sur celui qui va mourir. Toujours. Et celui qui va mourir fait ça. À ce moment-là, on coupe, voilà. On passe sur l'autre. Qui fait ça, qui tire et qui tue l'autre. Autrement dit, le vainqueur arrive le dernier. Mais ça veut dire que dans un montage, le premier a fait ça et est resté avec son revolver comme ça en attendant que l'autre. Non, il y a un détournement du temps. Et le monteur m'expliquait, les très grands monteurs sont ceux qui arrivent à gagner 4 ou 5 images, c'est-à-dire une fraction de seconde, sur le temps où le revolver reste avant-hier. Avant que ce soit complètement invraisemblable et que les spectateurs aient vu que. Pour qu'il arrête de tirer, non, c'est un problème ici. Mais ça, c'est une structure absolument établie. Tu ne verras jamais celui qui va gagner tirer le premier. Tirer son arme le premier. Parce qu'il est évidemment plus sûr que l'autre. Il sait qu'il est plus rapide. Jean Boyd sait qu'il est plus rapide que. Pas le problème, je ne sais pas lequel de ses adversaires. On pourrait en choisir Di Marvin, par exemple.
C'est jamais le bon qui va dégainer le dernier de toute manière.
De toute façon. Et de toute façon, il ne doit pas commettre ce geste agressif qui est laissé au mauvais, au méchant, au pervers, celui qui est habillé de loin. Alors, cette série de questions, le vrai problème, c'est la fin. Est-ce qu'il faut terminer sur un film ouvert ou un film fermé. C'est un vrai problème. Par exemple, il y a ce que nous appelons entre nous la fin chaplinesque, la fin des lumières de la ville, la fin des temps modernes. Ils s'en vont tous les deux de dos vers de nouvelles aventures. Ça, c'est la fin totalement ouverte. C'est pas ce qui va leur arriver. Et moi, j'en ai fait quelques-unes et avec du même trait, tout le monde, la fin est ouverte. Le chant discret de la bourgeoisie est indirectement. Un lointain hommage à Chaplin, puisque le groupe de personnages à la fin marche sans but sur une route, alors qu'on les a vus mourir dans une scène précédente. Donc c'est indirectement, il ne faut pas oublier que Buñuel a été le casse de Chaplin, ils ont travaillé ensemble sur le dictateur. Oui. Ils étaient très amis, et oui, absolument. Et puis il y a la fin fermée, qui est par exemple la fin d'une histoire policière d'Agatha Christie. Il faut absolument, si vous maintenez l'intérêt tout au long d'un film, qui a tué, ou Dominique, qui a commis le crime, et qu'à la fin vous dites, eh ben on n'en sait rien, et que le bon fin arrive, il y aura une grande protestation, voire même des protestations jubilantes. On ne peut pas se permettre ça, donc il faut bien trouver une solution. Certains, alors moi je me suis amusé à ça dans un film qui s'appelle La Piscine. C'était assez intéressant parce qu'il y a, c'est un film à quatre personnages, il y a un couple, Alain Delon, Romy Schneider, qui vivent ensemble, et dans une belle maison au bord de, près de Saint-Tropez, et ils reçoivent la visite de Maurice René et la jeune Jane Birkin, c'était son premier film, en France, qui sont père et fille. C'est la fille de Maurice René. Alors, Maurice René a eu autrefois une liaison avec Romy Schneider. Il est plus brillant et plus riche qu'Alain Delon, que son personnage. Et Jane Birkin est attirée par Alain Delon. Et lui par elle. Donc, il y a toute une histoire qui se développe entre les quatre personnages, avec très peu de dialogue. Et finalement, Alain Delon, et nous le voyons, nous savons que c'est lui, tue Maurice René. Pour des raisons complètes, il le noie dans la piscine. Et ensuite arrive un policier qui vient enquêter, qui a été joué par Paul Crochet très bien, qui se doute bien qu'il y a quelque chose, que ce n'est pas un accident. Il se doute de quelque chose, et nous le savons. C'est toujours un problème que doit se poser un scénariste par rapport à l'action qu'il décrit.
Il faut que le spectateur sache.
Soit en avance, qui est en avance ? Le spectateur ou le personnage. C'est un problème qu'Hitchcock a résumé une fois. Quelqu'un marche le long d'un trottoir, il y a quelqu'un qui attend avec un poignard au coin de la rue. Je montre le poignard ou pas ? Si je montre le poignard, le spectateur est en avance sur le personnage.
Et il aura peur.
Et il aura peur. Ça crée un suspense. Si je ne le montre pas, je vais vers le coup de théâtre. Nous sommes avec celui qui est assassiné. Et nous recevons le coup de théâtre avec lui. Ce sont deux émotions tout à fait différentes. Alors dans le cas de la piscine, l'enquête n'aboutit pas, mais elle aboutit d'une certaine façon car Romy Schneider comprend que c'est l'homme avec qui elle vit qui a tué son ancien amant. Elle le comprend. Malgré tout, elle accepte et de se taire et de continuer à vivre avec lui. Elle part ensemble. Donc l'énigme n'est pas résolue, le policier a échoué, mais quand même à la fin, il reste avec un soupçon. Et ce soupçon, il se peut que plus tard, et Romy Schneider et des regrets de ne pas avoir parlé, que Alain Delon se dénonce et que le policier trouve un indice qui lui permet de le comprendre. Tout reste d'une certaine façon ouvert, mais c'est un des rares films policiers, ça m'avait beaucoup intéressé, c'était très compliqué à faire ça, et on a eu beaucoup de discussions avec les producteurs qui se sont terminés par le succès du film, dans ce cas-là, ça résout toutes les discussions. Le producteur n'a rien à dire. Et à propos de la piscine, j'avais fait beaucoup d'efforts pour écrire ce qu'on appelle un dialogue indirect. Un dialogue indirect, ça veut dire qu'il y a une scène entre quatre personnages où on parle de tout, sauf des problèmes qui les opposent. Hein? On ne parle pas de... Ça reste, j'aime beaucoup ça, cultiver, garder le secret. Par exemple, pour exciter la jalousie d'Alain Delon, Maurice René qui a vécu autrefois, il y a la scène, la fameuse scène, enfin fameuse, elle a été souvent commentée, dite du repas chinois. Ils mangent tous les quatre, ils se sont fait apporter un repas chinois. Et ils mangent uniquement en parlant de nourriture. Ah ça, ceci. À un moment donné, Maurice René dit, ce qui est délicieux, c'est les restaurants, il dit à Alain Delon, c'est les restaurants indonésiens d'Amsterdam. Il se tourne vers lui, tu te rappelles ? Ce tu te rappelles est d'une perfidie totale. C'est ça le dialogue indirect. Alors j'avais fait beaucoup de travail pour écrire un scénario en dialogue indirect et je l'ai fait lire au producteur qui m'a dit oui, j'ai lu, c'est bien, c'est pas mal, mais qu'est-ce qu'on fait pour le dialogue maintenant ? Genre de question qu'on entend souvent.
Tu as souvent eu des conflits avec des producteurs à ce niveau ?
Oui, quelquefois, mais aussi de très bons rapports. Par exemple, Silverman, le producteur
qui a aidé Buñuel à être Buñuel, en fait, qui l'avait vraiment presque
une autre classe.
Permis de faire des films en toute liberté, était un producteur formidable. Charles Sainz aussi, un merveilleux producteur. Le producteur qui participe vraiment au film, tu sais ce que c'est un producteur qui dit au metteur en scène, ça, c'est, je ne sais plus qui m'avait dit ça, un metteur en scène. Le bon producteur, c'est celui qui me dit, ça, je m'en occupe. Là, c'est pas votre boulot. Il y a toujours des emmerdements, des problèmes sur le tournage d'un film. Quelqu'un qui avait un accident, quelqu'un qui est en retard, quelqu'un qui ne veut pas tourner de texte. Bon, c'est toujours des problèmes d'agent, d'argent, de tout ça. Le metteur en scène et le scénariste n'ont pas à se mêler de ça. Le bon producteur type Silverman, Solzens, Hightaker. Ça, c'est mon affaire. C'est pas la tienne. Toi, tu dois faire un film. Et moi, je m'occupe de tous les accessoires et des problèmes. Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est le producteur qui rassure, qui prend sur soi. Il y en a quand même. Oui.
Monsieur Mirel, quelles sont les qualités essentielles pour un bon scénario? Comment se tu décris?
Le bon scénario, je vais peut-être te décevoir, mais c'est celui qui donne naissance à un bon film. Je ne veux pas te dire mieux, parce qu'il n'y a pas un bon scénario en soi. Tu vois,
il comprend ce que tu veux dire, mais est-ce que ton premier souci en écrivant, est-ce que c'est la clarté, est-ce que
c'est le film. Mon premier souci, c'est de voir ce que le film va être. Tu vois, c'est de savoir que ce que j'écris a une existence tout à fait éphémère. C'est un texte écrit qui sera lu par moins de 100 personnes. L'équipe, et puis quelques distributeurs, quelques producteurs, et c'est tout. C'est un texte qui, à la fin du tournage, va finir dans les poubelles des studios. Donc, son existence sera terminée. C'est comme la chenille qui devient un papillon. La chenille devient un papillon, le papillon c'est le film, la peau de la chenille tombe à terre et se confond avec la poussière, comme le scénario. C'est ça aussi ce que je disais, un appel à la modestie, à l'humilité aussi, de savoir que notre travail est appelé à finir dans les ordures.
Et alors quand tu disais que la littérature peut être le grand danger ou l'ennemi principal au scénario?
Pour les mêmes raisons, je pense qu'on peut. Un scénario bien écrit est très dangereux. Un scénario avec des effets littéraires, des belles phrases, sur un soleil couchant, sur... par exemple, une phrase qu'il faut toujours s'interdire dans un scénario, c'est qu'il pense que, il se dit que, il se rappelle que, choses qui sont absolument courantes dans un roman. L'introspection est interdite dans le scénario. Il faut que tout puisse se jouer. C'est toujours la phrase que l'on se dit, il faudrait que vous, ton personnage, à ce moment-là, montre une tendresse cachée, mais aussi un peu de colère. Bon, d'accord. Est-ce que ça peut se jouer? Est-ce qu'il y a un acteur qui est capable de donner la tendresse et la colère en même temps? Ou est-ce que je suis obligé de rajouter une intrigue indiquant ça? C'est ça, un problème qu'on raconte à chaque seconde. L'élément numéro un du langage cinématographique, c'est l'acteur. Le jeu de l'acteur est à notre disposition. Et d'ailleurs, quand on écrit, on joue toujours. On joue toujours tous les rôles. Hein. Il faut savoir ça. Il faut savoir si vraiment ça peut se jouer ou pas.
Donc quand tu étais, par exemple, le prix du Nobel, c'était le théâtre permanent.
Permanent, absolument. Et c'était même... quand je revois des films de Buñuel aujourd'hui, je le vois jouant tous les rôles. Pas tous les rôles parce qu'étrangement, les metteurs en scène, ça c'est pas simplement le cas de Buñuel, se réservent toujours le rôle féminin principal. C'est comme ça. Par exemple, dans Belle de Jour, il était Belle de Jour et j'étais tous les clients. Dans la femme de chambre, il était la femme de chambre et j'étais les patrons. Tout le temps, au point. Alors comme il était sourd, ça donnait, ça pour détendre un peu, ça donnait des scènes admirables. Que il faisait que nos voisins de chambre nous regardaient un drôle d'air. Deux voix graves d'hommes qui disaient: vous êtes une sacrée belle fille, c'est... Ah, laissez-moi, monsieur. Quand on sort et qu'on voit des gens. Il faut toujours jouer. À Miloš Forman joue toujours les jeunes filles, toujours. Il y a une raison successive dans l'allemand. Je pense qu'il y a une raison à ça. C'est que le metteur en scène doit évidemment se mettre dans la peau, je parle bien physiquement, de tous les personnages qu'il va devoir diriger. Donc il prend celui qui est le plus éloigné de lui. Il prend le jeune personnage féminin qui est très éloigné de lui pour parce qu'il devra diriger une jeune fille. Non, pas du tout pour le. Mais quand je revois des films de Buñuel, je le vois vraiment jouer. C'est-à-dire, il y a une scène dans le film qu'on a vu l'autre soir, Le fantôme de la liberté. La scène du médecin, par exemple, où Jean Rochefort va voir un médecin, lui apporte ses analyses, et le médecin prend les analyses, et oui, bon, oui. Et puis ça, un certain nombre de fois, je vois, je sais plus, 4 ou 5 fois ou 6 fois. J'ai vu faire ça à Buñuel toute une journée, avant de trouver le rythme bizarre. Combien d'analyses, combien de papiers, et moi qui jouais l'autre rôle en face. C'est comme si je le revoyais encore. Parce qu'il a besoin de ça pour savoir si l'action est juste, si le rythme est exact, comment il pourra l'expliquer au comédien, ne pas l'improviser au dernier moment.
Donc si je comprends bien, le rythme lui-même doit déjà se trouver dans le scénario.
Absolument. Et ça ne peut se trouver qu'en le jouant.
Et ça, c'est pas mal.
Et puis nous avions aussi un principe avec Louis. Non, c'est pas la littérature du tout, ça évidemment pas. Parce que comment écrire ça? C'est du pur jeu. C'est-à-dire qu'on peut rajouter un ou deux ou trois résultats d'analyse et faire que, par exemple, une variation serait, il regarde ça. Parce qu'à la fin, il faut dire que nous savons qu'il va lui dire qu'il a un cancer du foie dans un état très avancé. Après l'avoir bien rassuré. Oui, non, oui, c'est normal, oui, bon. Ça, oui. Déjà, le fait de traîner un peu, déjà. Et puis, il y a ça. Oui, ça va. Oui, il y a mille variations possibles, tu vois, sur le fait de regarder les résultats d'analyse. On peut en faire toute une journée, en fait. Ça a pris toute une journée pour écrire quelque chose qui paraît très simple. Je veux dire que nous avions aussi, en permanence avec nous, ça me fait toujours penser à ça, un public, nous avions inventé un couple de personnages avec Louise, qui nous a suivis pendant 20 ans, qui était un couple français de spectateurs moyens. Qui s'appelait Henri et Georgette. Ils étaient assis dans ma chambre tout le temps. Je travaillais toujours dans ma chambre, ils venaient 3h du matin, 3h de l'après-midi. On savait Henri et Georgette qui étaient là, les deux chaises vides. Et on commençait à travailler. Alors, ce n'étaient pas des imbéciles, c'était des gens qui avaient choisi d'aller voir un film de Buñuel quand même. C'était des qui se bouquaient un peu de culture, tout ça. Et qui avait, bon, et notre préoccupation était de les garder jusqu'à la fin du film. Surtout que ça n'aille pas. C'est ça. Alors de temps en temps, quand je proposais quelque chose, il me disait, qu'en penses-tu, Georgette? Alors on jouait aussi en les gens. Quand on avait quelque chose à dire à l'autre, on faisait dire par les gens. Mais c'est très précieux, ça. Ça fait rire, mais c'est très précieux. Je me rappelle à plusieurs reprises, je propose quelque chose à Buñuel, qui me regarde comme ça, mais quoi? Comment? Je répète. Il se lève, il prend son imperméable, ses papiers, et il sort en disant, allez viens, Georgette. Et ajoute, ce film n'est pas pour nous. On rappelle ça, c'est pour vous donner une idée de l'ambiance dans laquelle ça va. Il y avait aussi de vrais engueulades aussi, enfin, ça pouvait arriver. Et puis il y avait cette certitude. Que l'imagination, qui est notre arme maîtresse, évidemment, quand nous écrivons un scénario, a deux qualités qu'il faut connaître. C'est une faculté de l'esprit. Bon. Elle est sans limite. Il n'y a pas de limite à l'imagination humaine. Un certain nombre de théoriciens de l'art dramatique bourgeois, au XIXe siècle, ont prétendu mettre des limites. Et dire qu'il y avait un certain nombre de situations dramatiques et qu'on ne pouvait pas en sortir. C'était la théorie de vraisemblable. C'était parce que la société bourgeoise prenait le pouvoir et voulait tout régir, y compris l'imaginaire. Donc il y avait 32, 34 ou 36, je confonds toujours les situations dramatiques et les positions érotiques, il ne faut pas m'en vouloir. Quelles sont les... Mais très très vite, ça a explosé, ça n'a pas tenu une année, ça. Les symbolistes et l'autre Hermon et Rimbaud sont arrivés.
C'est tout ça.
Voilà, c'est tout ça. Bon, c'est bon, on peut prendre ce verre, ta chaussure et ta femme et construire une histoire tout de suite. Tu vois, on peut, absolument. Il n'y a pas de limite à l'imagination. Et en plus, elle est innocente. Elle est innocente, c'est-à-dire que nous avons tous été, c'était le cas pour Buñuel et moi, été élevés dans une ambiance chrétienne où existe ce qu'on appelle le péché d'intention. C'est une des choses les plus perfides que la religion est enseignée. C'est-à-dire que un crime est un crime, bon, pour la loi civile comme pour la loi religieuse, mais le désir de commettre un crime est aussi un crime. Donc si un scénariste est sensible au péché d'intention, il ne sera jamais un bon scénariste. Et Buñuel a formulé ça une fois en disant qu'un bon scénariste de tous les jours doit tuer son père, violer sa mère et trahir sa patrie. Sinon, il n'écrira que du sirop. Il faut absolument vaincre, et c'est très difficile, très souvent, pour de jeunes auteurs, pour de jeunes garçons, de jeunes filles. Je vois dans les écoles de cinéma, quand je dis que je n'ai jamais fait de scénario, c'est très difficile pour eux de vaincre cette barrière du respect humain, de la convenance. Il faut, comme le disait quelqu'un d'autre, chercher la canaille en vous. Et soyez tranquille, vous la trouverez. Donc il faut savoir ça. Et pour développer cette imagination, qui est, Buñuel disait, c'est un muscle, et c'est vrai comme la mémoire, les acteurs savent très bien qu'on peut développer sa mémoire, on avait pris l'habitude tous les jours, après la fin du travail, après la nuit, quand on était bien fatigué, de rester chacun de nous deux une demi-heure dans la chambre, et nous nous donnions l'obligation d'inventer une histoire dans cette demi-heure, qui pouvait être très brève, très courte, avoir un rapport avec le scénario ou pas, et ensuite de le rejoindre au bar pour le sacrement apéritif et de nous raconter l'histoire. Uniquement pour maintenir notre esprit en alerte et en activité. Uniquement pour l'entraîner tous les jours pendant 20 ans. Tu vois, c'était le nombre d'histoires qui ont traversé les bars. Ensemble et qui se sont perdus. Alors j'arrivais toujours un peu après lui, il était déjà là, et quelquefois je le voyais assis dans son fauteuil comme ça, et de loin il me voyait venir et il me faisait comme ça. Ça voulait dire l'histoire que j'ai inventée n'est pas très bonne. Je voulais la raconter quand même, mais franchement, de temps en temps, au contraire, je le voyais. Il avait une très bonne à dire. Mais c'est ça, c'est uniquement, et je me rappelle de ces cloître silencieux au Paola, par exemple, en étant sous les deux avec des colonnes, un rond, toutes les histoires qui circulaient là-dedans, c'est complètement oublié. Mais c'est comme la tête qui ferait des exercices pour entretenir son corps. Il se peut qu'un sauteur en hauteur fasse travailler les muscles de ses bras. C'est possible aussi, tu vois, certainement de le faire.
Petit moment, est-ce que vous avez des questions? Ou qui n'a pas de questions?
Je me rappelle l'histoire que j'aime beaucoup, que tu connais sans doute, Christophe. C'est un moine, un ermite chrétien des premiers siècles de la chrétienté. C'est une histoire que j'adore parce que souvent je me mets à sa place. Qui court dans le désert solitaire en hurlant. J'ai une réponse, qui a une question? On a connu des
comptes. Je sais pas, vous participez au tournage généralement ou bien vous...
En général, dans le meilleur des cas, quand le film se tourne, j'en écris un autre. Quand on appelle le scénariste sur le tournage, c'est mauvais signe, c'est quelque chose qui ne va pas. Ça m'est arrivé, Buñuel voulait souvent m'avoir sur le tournage, et pour ça, ils me